VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 22 juin 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, arrivé aujourd'hui du cercueil de Patrice Lumumba dans sa région natale, en République démocratique du Congo. L'Union africaine dénonce des discussions malhonnêtes et opaques dans le dialogue inter-soudanais. Au moins un millier de morts dans un puissant séisme en Afghanistan. La Russie accuse l'Allemagne d'hystérie russophobe en lien avec la crise ukrainienne. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bienvenue. Plus de 61 ans après son assassinat, le cercueil de Patrice Lumumba a été ramené ce mercredi sur sa terre natale, deux jours après la restitution par la Belgique à la RDC d'une dent, seul reste de sa dépouille. Le film de ce retour raconté par Mouamadou Mfa.
Parti mardi soir de Bruxelles, le cercueil et la délégation qui l'accompagne avaient fait escale en début de matinée à Kinshasa. Ils ont alors emprunté trois petits appareils qui se sont posés l'un après l'autre en début d'après-midi sur la piste en terre battue de l'aérodrome de Tchoumbé dans la province du Sankoro dans une ambiance de fête avec comité d'accueil, chef coutumier, orchestre et danseurs traditionnels. De Tchoumbé, le cortège doit parcourir 25 km pour se rendre à Onalua, le village qui a vu naître Lumumba en 1925, où sont prévus deux jours d'hommage. Onalua fait partie depuis 2013 d'une commune baptisée Lumumbaville en mémoire du disparu. Sur la place du village, un modeste podium aux couleurs de la RDC, des tentes, de grandes affiches à l'effigie du héros national ont été dressées, les arrivants étant accueillis au son du tam-tam et de danse tétéla, l'ethnie de Lumumba. C'est le début d'un périple de 9 jours dans le pays qui fera étape dans des sites emblématiques de la vie de Patrice Lumumba et s'achèvera le 30 juin dans la capitale où, après un deuil national de 3 jours, un mausolée accueillera une cérémonie d'inhumation.
La chef de la mission de l'ONU en Centrafrique, la Rwandaise Valentine Rugwabiza, a réclamé aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'adoption de mesures consensuelles dissuasives contre les parties qui ne respectent pas leurs engagements en faveur de la paix. La cessation des hostilités sur toute l'étendue du territoire centrafricain reste à la fois un objectif immédiat et un gage de crédibilité de la feuille de route conjointe pour la paix en République centrafricaine, a dit l'émissaire onusienne en fonction à Bangui depuis seulement quelques mois. L'Union africaine dénonce des discussions qu'elle qualifie de malhonnêtes et d'opaques dans le cadre du dialogue inter-soudanais censé remettre le pays sur la voie de la démocratie après le putsch d'octobre, même boycotté par les civils. Jacques Aristide.
Mohamed Belaïch, l'ambassadeur de l'UA à Khartoum, s'est montré catégorique hier soir. L'Union africaine, dit-il, ne peut pas poursuivre ses pourparlers malhonnêtes, opaques, lesquels, ajoute-t-il, écartent des participants ou les traitent de façon injuste. Mais ton quelque peu différent aujourd'hui. La représentation de l'UA à Khartoum parle d'interprétations erronées de ses déclarations. Elle ne signifie pas, ajoute-t-elle, que l'UA se retire de la troïka qu'elle forme avec l'ONU et l'organisation régionale est-africaine IGAD pour superviser ce dialogue. L'UA explique qu'elle refuse désormais de prendre part à certaines activités en raison de l'opacité et du non-respect des participants à ces pourparlers qui ont démarré au début de ce mois et qui ont pour objectif de remettre le Soudan sur la voie de la démocratie. Les seuls à avoir répondu présent au dialogue inter-soudanais sont les militaires et leurs alliés parmi les anciens rebelles ayant signé la paix avec Khartoum après la chute en 2019 du dictateur Omar El-Béchir.
La justice sénégalaise a maintenu en détention ce mercredi 2 députés d'opposition et 9 autres personnes poursuivies pour avoir bravé une interdiction de manifester dans un climat de tension préélectorale. Le tribunal de Dakar a envoyé au 27 juin le procès des parlementaires d'Etier Fall et Mam Diarra Famé et de 9 autres prévenus. Le juge a expliqué vouloir regrouper ce jour-là leur dossier avec ceux de 75 autres personnes appelées à être jugées en relation avec la manifestation interdite du 17 juin. Le gouvernement bissau-guinéen a suspendu le maire de la capitale, Bissau, pour corruption présumée dans notamment une affaire de vente de terrain et de non-reversement de pensions d'employés. Le maire Louis Ntachama a été suspendu avec deux de ses collaborateurs, son premier adjoint et le secrétaire général de l'institut. Municipale, il a été remplacé par Fernando Mendes, membre d'un parti appartenant au camp présidentiel. Le prince Charles a rencontré aujourd'hui le président rwandais Paul Kagame. Après avoir visité le mémorial du génocide de 1994 à Kigali, où l'héritier de la couronne britannique doit participer à une réunion des dirigeants du Commonwealth. Cette rencontre intervient une dizaine de jours après que la presse a rapporté l'opposition du prince de Galles à un projet controversé du gouvernement britannique d'expulser vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Selon le quotidien The Times, le prince de 73 ans a exprimé à plusieurs reprises en privé son désaccord avec ce dispositif d'expulsion qu'il juge concernant et dont il craint qu'il n'éclipse la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui se tient vendredi et samedi et où il va représenter sa mère, la reine Elisabeth II.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden va demander au Congrès de suspendre pour 3 mois la taxe fédérale sur les carburants automobiles afin de limiter l'envolée des prix à la pompe. Le prix moyen du gallon d'essence a récemment dépassé pour la première fois 5 $, un seuil symbolique, emblématique de l'impact de l'inflation sur les ménages américains à quelques mois de l'élection de mi-mandat qui s'annonce délicate pour le camp présidentiel. Un millier de personnes ont été tuées et des centaines blessées dans un puissant séisme qui a frappé une zone frontalière isolée du sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités craignent que le bilan ne s'aggrave encore. Eric Mandirakiza.
Les gens creusent tombe après tombe, il pleut aussi et toutes les maisons sont détruites. Il n'y a ni tente ni nourriture, des gens sont encore piégés sous les décombres, a déclaré le chef du service de l'information et de la culture de la province de Pakitka dans un message à la presse. Des photos postées sur les réseaux sociaux montrent des maisons effondrées dans les rues d'un village dans cette région rurale pauvre et difficile d'accès. Des vidéos montrent aussi des habitants des zones touchées chargeant des blessés dans un hélicoptère. Le gouvernement craint que le bilan augmente encore au fil des opérations de secours. Le séisme a été ressenti dans plusieurs provinces de la région et aussi dans la capitale Kaboul, située à environ 200 km au nord de son épicentre. Limités depuis longtemps en nombre et en capacité, les services de secours sont inadaptés en Afghanistan pour faire face seuls à une catastrophe naturelle majeure. L'ONU a annoncé avoir déployé des équipes chargées d'évaluer l'étendue des dégâts dans plusieurs des zones touchées et depuis le Vatican, le pape François a exprimé sa sympathie aux victimes.
La Russie qui commémore ce mercredi l'invasion de l'Union soviétique par les nazis en 1941 a accusé l'Allemagne d'alimenter une hystérie russophobe. Cette accusation intervient dans un contexte de vives tensions entre Moscou et Berlin liées à l'Ukraine. Yakuba Ouedraogo.
L'hystérie russophobe est alimentée de façon systématique par des attaques quasi quotidiennes de membres du gouvernement allemand contre notre pays, a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué. Moscou marque ce mercredi le début de l'invasion de l'Union soviétique par les troupes du Troisième Reich en 1941 dans le cadre de l'opération Barbarossa. Le président Vladimir Poutine a plusieurs fois comparé l'offensive que mène actuellement Moscou en Ukraine à la lutte contre les nazis lors de ce qu'il qualifie de la Grande Guerre patriotique. Le conflit en Ukraine a tendu les relations entre la Russie et les pays occidentaux, dont l'Allemagne. Ces derniers ont frappé Moscou des sanctions économiques. La Russie a annoncé une forte réduction des quantités de gaz livrées à l'Europe. L'Allemagne dénonce, pour sa part, une attaque visant à semer le chaos. Nous sommes encore loin des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, a affirmé le chancelier allemand Olaf Scholz, assurant que la responsabilité en incombait à Vladimir Poutine.
Le président français Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir pour la première fois depuis le revers subi aux élections législatives dimanche où il a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, a indiqué la présidence française. L'allocution est prévue pour 18h GMT. Vous suivez VOA Afrique, voilà pour le journal. À présent, la minute éco avec Claire Morin-Dibou.
Au Cameroun, deux nouveaux hôtels Hilton vont ouvrir à Douala, la capitale économique, d'ici 2026. Leader mondial de l'hôtellerie, Hilton double ainsi la taille de son portefeuille au Cameroun et devient le plus grand opérateur hôtelier international du pays. Selon Ecofin, cela marque l'engagement de Hilton en Afrique centrale, où des projets voisins comme le Hilton Djamena Toumaï Palace au Tchad sont en cours de développement. La cinquième édition du rapport sur la situation économique en Mauritanie de la Banque mondiale note une reprise économique robuste dans le pays en 2021, mais inférieure au niveau d'avant le Covid-19. La croissance a rebondi de 2,4% grâce à une augmentation de la consommation privée et de l'investissement, ainsi qu'à une amélioration des performances du secteur des services. En Afrique du Sud, les prix à la consommation sont au plus haut depuis 5 ans, bondissant de 6,5% en mai par rapport à la même période en 2021, au-delà de la fourchette fixée par la Banque centrale, qui veut maintenir l'inflation dans une fourchette de 3 à 6%. L'institution financière de la première puissance industrielle d'Afrique a relevé son taux d'intérêt de référence à plusieurs reprises ces derniers mois, en raison d'une hausse persistante des prix.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Sadio Mané est désormais un joueur du Bayern de Munich.
Oui, l'attaquant sénégalais s'est engagé pour 3 ans, soit jusqu'en 2025, avec le club allemand. À 30 ans, Mané qui quitte Liverpool aura coûté au Bayern Munich environ 40 millions d'euros. Retour sur le parcours improbable de la star sénégalaise avec Lionel Gaïma.
La route vers la gloire n'a jamais été un si long fleuve tranquille pour Sadio Mané, fils d'un imam de Bambali, un village de la Casamance au Sénégal. Repéré par Metz dans un club partenaire de Dakar, Mané rejoint le vieux continent début 2011. 3 ans plus tard, il part au RB Salzbourg en Autriche où il progresse dans tous les compartiments de son jeu. Mané se trouve prêt en 2014 à tenter l'aventure dans la première ligue à Southampton pendant 2 saisons, puis à Liverpool. Avec Roberto Firmino, Mohamed Salah ou Virgil van Dijk, il fait partie de ces recrues des années 2015-2018 qui ont transformé le visage de Liverpool et ramené le club au sommet de la hiérarchie anglaise et européenne. La rigueur chez Mané n'est pas un vain mot. Sa vie tourne autour de 3 pôles, le football, l'entretien de son corps et la prière. À 30 ans, après avoir offert la première CAN de son histoire au Sénégal, puis un billet pour le Qatar, Sadio Mané s'offre un nouveau défi. Le Sénégalais arrive en Bavière au sommet de la gloire. Le transfert royal du Bayern soutient la presse allemande, tant le Rekordmeister s'est rarement offert de joueurs de ce standing. Mais l'investissement semblait indispensable. L'attaquant vedette de Bavarois, Robert Lewandowski, l'homme à plus de 40 buts par saison, veut quitter l'effectif en fin de saison. Pas les mêmes statistiques chez Mané, mais le Sénégalais a tout de même marqué 111 fois en 263 matchs en Premier League, avec Southampton et Liverpool, avec plus de 47 passes décisives. Lors de ses 55 apparitions en Ligue des Champions, Mané a marqué 24 buts, accompagné de 8 passes décisives.
La finale du tournoi des cadets opposera le Burkina Faso au Nigeria dans la zone UFOA-B.
Opposé au pays hôte, le Ghana en demi-finale, les jeunes Burkinabés se sont imposés sur la courte marque d'un but à 0. Dans l'autre demi-finale, le Nigeria a disposé de la Côte d'Ivoire 3-1. En attendant la finale prévue samedi à Cape Coast, Burkinabés et Nigériens sont du même coup qualifiés pour la CAN des cadets prévue l'an prochain en Algérie. Ce sera la première fois depuis 2011 que les étalons cadets disputent ce tournoi. Ils l'avaient justement remporté en 2011 à Kigali, au Rwanda.
Paul Pogba est arrivé hier en Guinée.
L'international français a été accueilli par des milliers de supporters à son arrivée à Conakry, capitale de la Guinée, le pays d'origine de ses parents. Pogba joue ce mercredi un match de charité à Conakry avec d'anciennes gloires dont le Sénégalais Eladi Diouf, l'Ivoirien Kader Keïta ou encore le sélectionneur guinéen Kaba Diawara. Son séjour en Guinée est organisé par une association locale appelée 48 heures pour la Guinée qui lutte pour un meilleur accès à l'eau, la santé et l'éducation.
page de sport VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Après avoir remporté l'an dernier le prix Femme du Courage du département d'État américain, la juriste camerounaise Maximilienne Ngombe, directrice du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, a été récompensée par l'organisation Robert Kennedy Human Rights. Dans cet extrait d'un entretien avec Nathalie Barge à Washington, Maximilienne Ngombe donne un aperçu de la situation des défenseurs des droits humains au Cameroun.
Les défenseurs des droits humains payent le lourd tribut aujourd'hui dans cette restriction de l'espace civique entouré de toutes ces crises-là au nord-ouest, sud-ouest, à l'extrême nord, à l'est. Nous subissons beaucoup de menaces, d'intimidation, même d'humiliation, de lynchage médiatique. Et là, c'est les femmes défenseurs qui payent le lourd tribut, comme nous sommes dans un pays patriarcat. Et lorsqu'elles portent une voix, vous pouvez imaginer ce qu'elles endurent de tous les côtés. Il y a des moments où même des personnes pour lesquelles vous vous battez sont contre. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes avec le gouvernement en leur disant respectez les conventions instruments. Après, et vous dites par exemple au groupe armé, vraiment vous devez déposer les armes pour qu'on aille vers une solution ensemble. Vous avez des menaces de toutes parts. Les femmes défenseurs, certains ont divorcé parce que leurs maris ne peuvent pas comprendre qu'en tant que femme, vous êtes en train de vous battre sur quelque chose alors que vous avez un foyer à gérer, il y a des enfants. D'autres ont perdu même l'estime d'elles-mêmes. Et c'est les femmes qui n'arrivent pas à aller en exil parce qu'elles ont une famille, elles préfèrent, n'est-ce pas, endurer toutes ces menaces-là au niveau local. D'ailleurs, nous avons fait une étude sur les femmes défenseurs sur le nord-ouest et sud-ouest en relation avec mon frère et mon ami Lauria Mbala qui dirige le Tchada. On a bien vu que les femmes défenseurs ont beaucoup de problèmes et c'est pour cela ici que je saisis cette opportunité de dire au gouvernement camerounais et à d'autres gouvernements d'adopter les lois qui protègent, n'est-ce pas, les défenseurs. Il y en a eu un projet de loi qui est aujourd'hui au bureau du Sénat, déposé par un sénateur qui a bien voulu nous accompagner, le sénateur Flambeau Ngaïab.
Maximilienne Ngombe, un survol des pays que vous couvrez. Aujourd'hui, quel constat vous faites en Afrique centrale?
L'Afrique centrale reste difficile, même si on a quand même engagé certains résultats. Le Gabon a quand même pris une loi pour dépénaliser l'homosexualité. Et c'est en Afrique centrale et c'est notre boulot. Il faut reconnaître quand quelque chose se passe correctement. Là, la Centrafrique vient d'abolir la peine de mort. C'est un résultat quand même concret. La Centrafrique aussi a signé un accord de cessez-le-feu à Khartoum, où on était là. Et puis, ils sont petit à petit en train de mettre en place la Commission de vérité, juste conciliation et la Cour spéciale pour juger les criminels au niveau de la Centrafrique. Nous suivons de très près. La RDC va tenir ses élections l'année prochaine. La recrudescence de la violence au niveau du Nord Kivu et Sud Kivu est inquiétante. Et en même temps, la question, n'est-ce pas, de l'indépendance de la Commission nationale pour l'organisation de la CENI, ça se pose avec acuité. Mais nous avons quand même eu beaucoup de réunions avec la Commission nationale des droits de l'homme, avec des parlementaires. On va avoir la documentation avant les élections, pendant et après. Et il ne nous reste qu'à faire les recommandations. Le Tchad, depuis la mort de Idriss Déby, il y a quand même la junte qui a pris le pouvoir. Donc notre bataille, c'est de revenir à la Constitution. Et nous avons dit qu'il faut respecter dans tous ces pays la CADEC, la Charte africaine de la démocratie, les élections, la gouvernance. C'est la moindre des choses, c'est eux, les États partis qui ont, n'est-ce pas, adopté cette charte. Il n'est pas normal qu'en Afrique centrale, ils sont toujours les premiers à les ratifier, qu'ils n'acceptent pas la mise en œuvre.
Maximilienne Ngombe, directrice du REDAC, rendez-vous sur VOA Afrique pour l'entretien intégral dans le monde au féminin. Kigali accueille cette semaine le sommet du Commonwealth, une organisation intergouvernementale qui regroupait au départ d'anciennes colonies britanniques. Mais elle s'est élargie depuis et rassemble aujourd'hui 54 pays membres. Comme le rapporte Henry Rigwell de Londres, la présente réunion se tient sur fond de critiques relatives aux droits de l'homme, tant en Grande-Bretagne qu'au Rwanda. Récit Jacques Aristide.
En faisant de son pays l'hôte de la grand-messe du Commonwealth, le président Paul Kagame veut ainsi mettre en valeur le Rwanda, selon Philippe Murphy, directeur de l'Institut des études du Commonwealth à l'Université de Londres.
C'est un autre forum international dont Kagame se permet de faire partie. Clairement, il s'agit d'une personnalité très controversée. Le bilan du Rwanda en matière de droits humains est discutable et controversé.
Le Rwanda est notamment montré du doigt pour son manque de liberté des médias et de liberté politique. Après la fermeture de son journal par le gouvernement, le journaliste rwandais Eleneus Akanga a fui le pays en 2007 pour s'exiler en Angleterre.
My crime was reporting the truth and...
Mon crime a été de rapporter la vérité. J'avais écrit un article où je cherchais à rédiger un article sur des journalistes battus par des inconnus. Il s'est avéré que ces journalistes pensaient que le gouvernement les amochait en utilisant des agents de l'État. J'ai appris plus tard qu'on allait m'accuser d'espionnage.
Londres a paraphé un accord avec Kigali pour envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés au Royaume-Uni. Le premier vol, prévu la semaine dernière, a été bloqué à la dernière minute par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour les critiques, ce projet viole le droit des réfugiés, mais le gouvernement britannique maintient que la politique est légale et va dissuader les migrants. Boris Johnson, le Premier ministre britannique.
Quand les gens viennent ici illégalement, quand ils enfreignent la loi, il est important que nous fassions cette distinction. C'est ce que nous faisons avec notre politique rwandaise.
Il s'agit d'une politique contradictoire, d'après Eleneus Akanga.
It is astonishing when you see the British government, which has given people like myself asylum.
C'est étonnant, le gouvernement britannique a donné l'asile à des gens comme moi, mais maintenant ce même gouvernement nous dit que le Rwanda s'est tellement transformé qu'il peut accueillir les demandeurs d'asile les plus vulnérables. Nous savons que ce n'est pas le cas.
L'analyste Philippe Murphy est d'avis que le sommet du Commonwealth va être éclipsé par la polémique autour de la politique d'asile britannique.
Cela a attiré l'attention de la communauté internationale sur le bilan du Rwanda en matière de droits humains. Depuis les années 1990, le Commonwealth a tenté de se réinventer en tant qu'organisation plus unie par des valeurs communes que par une histoire commune. Le problème, c'est qu'il n'a pas été très bon pour faire respecter ces valeurs.
Kigali dément toute violation des droits de l'homme. Pour les partisans du président Kagame, ce sommet du Commonwealth équivaut à une nouvelle étape importante dans le développement du pays.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Cette semaine aux États-Unis, les audiences sur l'assaut du Congrès le 6 janvier 2021 se poursuivent. La commission en charge a décrit mardi la pression incessante de Donald Trump pour annuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et tenter de démontrer les menaces personnelles généralisées contre les garants de la démocratie américaine, les travailleurs électoraux et les responsables locaux notamment. Les détails avec Dilly Dico.
Le panel enquêtant sur l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole a repris ses travaux en mettant l'accent sur les efforts de Donald Trump pour annuler la victoire de Joe Biden. Les audiences établissent que le président Trump a cherché, en appuyant sur les responsables des principaux États en jeu lors de la bataille électorale, à faire rejeter certains bulletins de vote et soumettre une fausse liste de grands électeurs pour le décompte final. Cette pression a également été alimentée par des allégations non fondées de fraude électorale du président sortant, ce qui, selon le panel, a conduit aux violences. Le président de la commission d'enquête, le député démocrate Benny Thompson, a déclaré mardi
des affirmations selon lesquelles une fraude électorale généralisée a entaché l'élection présidentielle de 2020 ont toujours été un mensonge. Donald Trump savait qu'il s'agissait d'un mensonge et il a continué à les amplifier de toute façon. Tout ce que nous décrivons aujourd'hui, la pression destructrice incessante sur les autorités étatiques et locales, était entièrement basée sur un mensonge. Donald Trump le savait, il l'a fait quand même.
L'audience s'est ouverte sur des récits d'attaques personnelles auxquelles ont été confrontés des élus locaux, pour la plupart des républicains. Gabriel Sterling, le directeur des opérations au bureau du secrétaire d'État de Géorgie, a plaidé dans une vidéo datant de 2020 et diffusée au cours de l'audience pour que ces pressions cessent.
Tout ça est allé trop loin, bien trop loin. Joe DiGenova a demandé aujourd'hui que Chris Krebs, un patriote qui dirigeait la CISA, soit abattu. Un informaticien de 20 ans dans le comté de Gwinnett a reçu une corde de pendaison et des menaces de mort disant qu'il devrait être pendu pour trahison parce qu'il a transféré un rapport sur les données d'un système de gestion électorale du comté pour qu'il puisse être lu. Il faut que ça s'arrête.
La représentante républicaine Liz Cheney, vice-présidente de la commission du 6 janvier, a imploré les Américains de prêter attention aux preuves présentées lors de ces audiences.
Le fait est que Donald Trump ne se souciait pas des menaces de violence. Il ne les a pas condamnées, il n'a fait aucun effort pour les arrêter. Il a continué à avancer ses fausses allégations. J'exhorte tous ceux qui nous suivent aujourd'hui à faire preuve de discernement avec les arguments présentés par la commission.
Au cours de cette audience publique, la quatrième organisée ce mois de juin, le président de la commission d'enquête, Benny Thompson, a comparé les actions du président Donald Trump qui ont mené à l'assaut du 6 janvier à une tentative de coup d'État.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration américaine a annoncé mardi qu'elle renonce à utiliser des mines antipersonnelles hors de la péninsule coréenne et s'engage à ne plus en développer, en produire ou en exporter. Quel pourrait être l'impact de cette mesure sur le plan humanitaire? Eric Manirakiza a joint à Dakar Stéphane Landerlos, responsable régional pour l'Afrique au CICR, en charge de la contamination par les armes.
C'est une très bonne décision. Le CICR est vraiment heureux de voir le changement dans la politique des États-Unis vis-à-vis des mines antipersonnelles. On a noté que les États-Unis vont faire leurs plus grands efforts matériels et aussi opérationnels pour trouver des solutions à soutenir et en vraiment compliant avec toutes les normes de la Convention d'Ottawa. Alors, le CICR veut encourager les États-Unis à prendre des pas concrets pour accéder à la Convention d'Ottawa au plus vite que possible.
Vous êtes confronté au quotidien à ce fléau des mines antipersonnelles. Quel pourrait être l'impact de cette décision de Washington sur le terrain, là où vous vous trouvez?
Déjà sur le terrain, il y a beaucoup de mines antipersonnelles qui sont de provenance des États-Unis. Et si le gouvernement américain ou le gouvernement des États-Unis n'exporte plus, par exemple, ces mines antipersonnelles, ça va se faire sentir sur le terrain aussi, évidemment. Ça veut dire que l'influx de ces engins explosifs sera minimalisé ou en tout cas, il y aura moins de mines qui vont venir sur le marché.
Il y aura moins de dégâts.
Il y aura moins de mines. Il faut déjà voir qu'en Afrique, il y a encore beaucoup de pays qui ont des champs de mines qui datent de plusieurs années, des conflits qui sont déjà terminés depuis longtemps. Et là, les mines, elles sont là. Alors, elles vont continuer à causer des dégâts aux civils. Ça, c'est clair. On essaie de réduire ces dégâts, mais c'est pas quelque chose qui est très facile. D'un autre côté, il faut voir que les conflits qui se passent maintenant, actuellement, qu'il y a beaucoup de mines improvisées. Que là, même avec la décision du gouvernement des États-Unis, ça ne va rien changer. Alors, des mines improvisées, elles fonctionnent comme des mines qui sont fabriquées en usine, des mines militaires, on va dire, mais elles sont faites souvent avec des matières qu'on trouve sur le marché. Elles sont improvisées de nature.
Donc, il y aura moins de mines qui vont arriver. Quelle est l'ampleur actuelle de ces mines?
Il y a à peu près 23 pays où il y a des champs de mines, qui contiennent des mines en tout cas. Et ça ne va pas changer, et évidemment. Ça veut dire que tout ce qui est là, ça reste, Mais en plus, il y a encore de nouvelles mines qui sont utilisées aux journaliers. Quand on regarde, par exemple, en RDC, il y a le conflit qui est vraiment à l'est du pays, qui est en cours. Et là, on utilise des mines de mines antipersonnelles. On peut seulement espérer que c'est un flux de mines, que ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter si tous les pays accèdent à la Convention d'Ottawa.
Voilà, Le Monde aujourd'hui. Avec Stéphane Landerlos, nous terminons ce journal. Il est responsable régional pour l'Afrique au CICR. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro. À la mise en onde, Lionel Gaïma.